France Musique. Tour de chant, Martin Penney.
Je monte sur les planches et vous venez me voir.
Sur la scène, il y a l'amour et mes façons d'y croire.
Aujourd'hui, Femme des années folles, première partie. Je reçois un jeune homme, Norman Barogeli, comédien, passionné d'histoire moderne, de musicals, de musiques diverses du XXe siècle. Et je vais vous faire une confidence. J'ai connu Norman il y a 20 ans lorsqu'il présentait un spectacle autour des Zazous. Bonjour Norman.
Bonjour Martin.
Alors comment c'était venu cette passion pour cette époque ?
La passion pour les Zazous et cette époque, en fait, c'est un petit peu mêlé avec les années folles. C'est la passion pour ce moment donné, à la fin des années 20 ou au début des années 30, où le jazz rencontre la chanson française. Je ne sais pas pourquoi, quand j'étais adolescent, j'étais passionné par ça. Je dis je ne sais pas pourquoi, parce qu'on ignore toujours comment viennent les passions, mais je pense qu'il y a un élément déclencheur qui est le jour où, peut-être à 10-12 ans, j'ai entendu sur une cassette à l'époque, dans la voiture de mon père, un morceau de Duke Ellington de 1928 qui s'appelle « The Moochie ». Et qui est un morceau extrêmement évocateur qui donne une porte d'entrée tout à fait mystérieuse vers ces années folles. Et depuis, je ne les ai jamais quittées.
Justement, aujourd'hui, vous nous présentez un beau livre aux éditions EPA, un triple CD sorti chez Frémo et un spectacle itinérant, tout ça consacré aux femmes des années folles, c'est-à-dire, on le précise, à la décennie 1919-1929 et qui se situe entre deux périodes de crise.
C'est effectivement l'acception des années folles, c'est-à-dire qu'on est au lendemain de la Première Guerre mondiale et c'est une bulle qui va s'éteindre avec la crise de 1929. Donc on a 10 ans comme ça, que l'on va nommer bien plus tard années folles, puisque les protagonistes de cette décade de l'illusion, comme on l'appelait également, n'appelaient pas ça elles-mêmes années folles. C'est à la fin des années 50 que des journalistes vont nommer cette période, en opposition et en complémentarité à la Belle Époque, qui elle est juste avant la Première Guerre mondiale. Donc voilà, c'est vraiment une bulle tout à fait particulière, coincée entre ces deux crises.
Alors, les femmes des années folles, elles sont innombrables, on s'en doute, les anonymes comme les célèbres et les très célèbres, mais vous avez choisi un angle un peu particulier, parce qu'on ne peut pas parler de toutes les femmes des années folles.
Oui, il s'agit vraiment de parler de cette nouvelle forme de féminité qui voit le jour avec les années folles et de cette période qui va participer à une libération des femmes et à une émancipation. On va voir qu'elle est tout de même contrainte par la société, par la politique, mais tout de même, il y a une vague de liberté qui naît à cette période, qui naît un petit peu plus tôt même, puisque, on le sait, pendant la Première Guerre mondiale, les femmes ont remplacé les hommes qui sont partis à la guerre, et donc les femmes ont pris leur emploi et sont devenues visibles dans toutes les couches de la société. Elles ont eu accès à un travail normé, à un travail salarié, qui était tout à fait nouveau. Et par conséquent, au lendemain de la Première Guerre mondiale, les femmes n'ont pas voulu revenir dans l'ombre dans laquelle elles étaient avant. Et elles ont voulu garder cette visibilité. Et certaines vont servir d'exemple, comme toutes les femmes dont nous allons parler lors de ces émissions.
Alors le symbole, bien sûr, des femmes des années folles, c'est la garçonne. Cette garçonne qui a été l'objet d'un roman très célèbre sur lequel nous allons revenir, mais également d'adaptations sous forme de films, de pièces de théâtre et de chansons. Et donc, on commence avec une chanson de 1957, l'une de ces adaptations par Colette Mars.
Regard lourd, les cheveux courts, cigarette au bec, oui voici la garçonne à qui lui plaît, lui fait des frais, son cœur se donne, elle oublie après, elle agit comme tous les hommes, c'est l'indépendance pour elle enfin qui sonne. c'est bien son heure de goûter au bonheur. Il est temps, fille d'Ève, reprenant de l'aplomb, que la femme relève et les yeux et le front. Il est temps qu'elle brave toute moralité et ne soit plus l'esclave que de sa liberté. Vivre sa vie comme ça lui dit, c'est le bon plaisir, la joie de la garçonne. Elle n'admet pas qu'entre deux bras on emprisonne son cœur ici-bas. Suivant son goût, elle rit de tout. Elle ne veut surtout dépendre de personne. Changer de danseur, voilà son vrai bonheur.
Donc voilà, c'était Colette Mars, une certaine figure de cabaret des années 40-50 qui prêtait sa voix à La Garçonne, chanson du film homonyme sorti en 1957. Et ce film nous renvoie bien sûr au roman de Victor Marguerite paru en 1922 qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, Norman Barogeli.
Oui, c'est un roman qui fait scandale parce qu'on y parle de l'homosexualité, de la polygamie, de l'échangisme, de la drogue, des relations vénales. On y parle du contrôle des naissances, on y parle de la psychanalyse et de la solitude causée par la vie moderne. Tous les thèmes sont mélangés dans une figure qui est la figure de La Garçonne, le personnage de Monique L'Herbier qui va quitter son milieu bourgeois pour aller rencontrer des vedettes de music hall et s'adonner à tout un tas d'expériences comme une sorte de voyage initiatique dans cette vie moderne. Et ça va totalement scandaliser. Alors que le roman se termine de façon tout à fait morale, mais ça, la face conservatrice du roman n'est pas du tout perçue par les contemporains et la librairie Hachette va refuser de distribuer le livre et on va aller jusqu'à retirer sa Légion d'honneur à l'auteur Victor Marguerite.
Ce qui est quand même assez étonnant.
Oui, ce qui est quand même un affront tout à fait étonnant. Donc il n'a pas été censuré. Vraiment, en France en tout cas.
C'est l'auteur qui a été censuré.
Mais l'auteur a été censuré, tout à fait.
Ouais. Ce que j'aimerais souligner, Norman, c'est qu'il y a eu beaucoup d'adaptations de ce roman, d'abord au cinéma, puisque ça commence dès 1923 avec une version muette réalisée par Anne Colac, puis après en 1935 par Jean de Limur, et en 1957 par Jacqueline Audry, et c'est donc de ce film qui était tirée la chanson que nous venons d'entendre. Il y a également eu un téléfilm en 1988 et une adaptation théâtrale en 1926.
Oui, parce que la censure donc s'est abattue sur son auteur, qui s'en est défendu en disant que les gens n'avaient rien compris, parce que la société allait tellement vite à cause du cinéma qui arrivait, que les gens n'ont pas plus le temps de lire, ils courent, ils parcourent, et par conséquent, ils n'ont pas lu son livre jusqu'à la fin. Et ce n'a pas empêché le roman d'avoir un retentissement dans la population tout à fait extraordinaire, puisqu'on estime qu'à la fin de la décennie, 1 million d'exemplaires étaient vendus. On estime que 10% de la population française a lu La Garçonne au cours des années 20. Donc c'est absolument...
Donc on peut supposer que ce texte a eu une influence sur les mentalités à l'époque.
Ouais. Vraiment.
Et sur les mœurs, sans doute. Et donc le livre a suscité toutes ces adaptations, mais également une chanson, non pas celle de 57, mais une en 1923, qui a été créée et enregistrée par Georges Hel chez Gramophone en juin 23. Et donc je vous propose, en pendant de la version de 57, d'écouter cette chanson originale, donc de circonstances... qui s'intitule également La Garçonne.
Le teint pâle et de grands yeux noirs, et les lèvres d'un rouge écarlate, les cheveux bien coupés au rasoir, une gorge plate, comme corsage elle porte un veston, un chapeau de feutre en forme de pomme, sa jupe colle comme un pantalon, elle a tout de l'homme. La garçonne, la garçonne se donne l'allure d'un garçon. Et le crâne porte une canne, affecte des petits airs sans façon. C'est Gisèle qu'elle s'appelle, mais elle se fait appeler Lucien. Elle croit, ça c'est certain, être du sexe masculin, la garçonne. Le soir, elle fréquente tous les grands bars, et très jeune, elle est déjà précoce. Elle fait la bombe avec les fêtards, c'est toujours la noce. Accoudée au comptoir, l'air hardi, prenant des attitudes bizarres, elle boit des cocktails, des whisky, et fume le cigare. La garçonne, les hommes pour elle, ce n'est pas son lot. Près des poules, à la coule, elle se donne des airs de gigolo. Don Juan, est-ce pas vanne d'être l'égal de l'homme, elle se pose. Mais pour être son égal, je suppose qu'il manquera toujours quelque chose à la garçonne.
Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un troisième couplet dans cette chanson qui est très moralisateur, qui décrit une déchéance de la garçonne à la fin de sa vie.
Là, on est quand même sur des chansons et un livre et qui parle des femmes et d'une forme d'émancipation, mais écrit du point de vue des hommes. Et par conséquent, ce point de vue, eh bien, il se révèle un petit peu à la fin.
Et vous savez, Norman, qu'il en est exactement de même pour les chansons, parce que la plupart des chansons de l'époque sont écrites par des hommes, même si elles sont chantées par des femmes. Alors parfois, on a quelques exceptions de compositrices, d'autrices, mais enfin, c'est vraiment pas beaucoup. Hein. Donc on fait chanter aux femmes ce qu'on a dans la tête quand on est un homme à l'époque. Donc c'est quand même forcément une vision encore assez patriarcale, entre autres.
Absolument.
Ouais. Alors, après la version réaliste que nous venons d'entendre avec Georgelle, on va avoir une version comique de cette émancipation, lancée par Maurice Chevalier, le très célèbre fantaisiste déjà dans les années 20, qui était grande vedette de musicals dans tout un tas de salles comme l'Empire, le Casino de Paris. Et là, il s'agit d'une adaptation très libre du célèbre air de Charleston américain de 1925, Yes Sir, That's My Baby.
Aiguillonné par l'amour, je me suis donné il y a 8 jours, et moi quand je me donne c'est pour toujours. La femme que j'ai dégotée n'est peut-être pas une beauté, mais ce qui me plaît c'est son autorité. C'est elle qui ordonne, c'est elle qui est patronne, c'est moi qui le fait marcher. C'est elle qui te repose, c'est elle qui me dépose, c'est moi qui tire le plancher. Quand je la suis, sans broncher, aux galeries ou au bon marché. C'est elle qui commande, c'est elle qui marchande, et moi j'ai le droit de lâcher. Après tous les exercices, elle sait l'anglais comme une mise, et comme l'anglaine, elle joue au tennis. Elle sait conduire une moto, elle sait se tenir en auto, et pour la voir dans ma torpedo. C'est elle qui pilote, c'est elle qui capote, c'est moi qui baisse le gazon. C'est elle qui gaze, c'est elle qui écrase, c'est moi qui baisse la prison. Si l'on fait une station chez le bistrot pour la collation, c'est elle qui picole, c'est lui qui rigole, et moi j'ai l'air d'un couillon. Quand je ne suis pas en smoking, elle va toute seule au dancing, il paraît que ça n'a rien de choquant. Mais ce qui me paraît moins bien, c'est que quand elle revient à la maison le surlendemain matin, c'est elle qui m'outrage, c'est elle qui est en rage, c'est moi qui me fais bien moucher. C'est elle qui roupette, c'est elle qui m'embête, c'est moi qui ai les yeux fauchés. Et quand elle va guincher, son danseur prend des airs penchés.
c'est elle qui bégote, c'est lui qui la flotte, et moi je veux me l'accrocher.
Voilà, chacun son truc. Déjà, rien que le titre, c'est tout un poème qui illustre donc cette volonté d'émancipation de pas mal de femmes au cours des années 20. Là, on était en 1925. On aurait pu citer une autre chanson comique de l'époque, « Elle sait conduire une automobile », Cécile, créée par Bisco. Mais bon, on pourrait multiplier comme ça les exemples parce que la chanson aimait faire rire et donc s'emparer des sujets d'actualité. Quoi qu'il en soit, les années folles sont aussi marquées par le développement du sport. Donc il n'y a pas que l'automobile, hein, y en a plein d'autres, le tennis notamment, et puis on pourra en citer beaucoup. Vous vous y êtes attardé, Norman Barogeli, dans vos travaux de recherche.
Oui, parce qu'effectivement, les sportives font partie des figures emblématiques de ces années folles. On pense effectivement aux tenniswomen comme Suzanne Lenglen, sur laquelle nous allons revenir. On pense aussi aux aviatrices comme Adrienne Bolland, comme Hélène Boucher. Mais d'un point de vue plus modeste, effectivement, le sport s'est vraiment développé avec la complication que quel regard porter sur ce sport féminin, et notamment les milieux catholiques étaient très ambigus parce que on admet volontiers qu'il est très bon pour les hommes comme pour les femmes de faire de l'exercice, c'est bon pour la santé. En revanche, s'adonner à la compétition est un péché.
C'est un péché pour les femmes et pas pour les hommes ?
Eh bien voilà, l'orgueil est accepté pour les hommes, mais beaucoup moins accepté pour les femmes. Il y a quelques exemples comme ça dont on parle, d'émancipation qui sont vraiment des avancées, mais dans son ensemble, la société reste absolument conservatrice.
Alors, tout à l'heure, vous avez cité le nom de Suzanne Lenglen. En fait, elle s'appelait Lenglen, mais elle se faisait appeler Lenglen. Et donc, cette tenniswoman, enfin, je pense pas qu'on utilisait ce terme-là à l'époque, cette joueuse de tennis, première star internationale du tennis féminin, était surnommée la Divine. Alors, pourquoi la Divine ?
On la surnommait aussi la Nijinsky de la raquette, tellement elle virevoltait, elle dansait, elle sautait sur les courts de tennis. Elle a vraiment incarné la figure de la femme en mouvement pendant ces années folles. Et elle l'incarnait parce qu'elle était de tous les courts. Elle a 181 victoires consécutives. Je crois que c'est encore un
record.
Un record, c'est inégalé. Et donc, elle était de toutes les compétitions, Wimbledon, Roland-Garros. Et il y a encore un court de tennis qui porte son nom aujourd'hui à Roland-Garros.
C'est vrai. Et alors, en 1926, eh bien, c'est le fantaisiste Saint-Granier qui lui rend une sorte d'hommage, on va l'entendre, au Casino de Paris, dans la revue Paris, en imitant sa silhouette typique, puisque là, il s'était travesti, avec donc en portant une jupe courte et un bandeau autour des cheveux.
Madame, c'est une sorelle, et jalouse de voir quelqu'un plus connu qu'elle. Les rayons palvés sont énervés, cachant Renaudel, sont jalouses à crever. Ce n'est pas ma faute, on peut le constater. Eh bien, j'ai horreur de la publicité. Je ne peux rien faire pour empêcher mes adorateurs de rabâcher. Ah, Suzanne, Suzanne, y en a pour toi. Ah, Suzanne, Suzanne, partout l'on te voit. Dans tous les journaux qu'on tire, y a ta photo, y a ton bandeau, tes dents et ton sourire. Ah, Suzanne, Suzanne, quelle obsession. Ce n'est plus de l'amour, c'est de la passion. Ton coup de raquette fait pas mes lèvres froid. Ah, Suzanne, Suzanne, y en a que pour toi. À la santé, le grand bébert du Montparnasse. Ouvrant l'autre matin, tes huit dressés tourneaux. Disait Grane, mais quel bonheur, voir ma petite gueule à la place d'honneur. Mais hélas, pour lui, les journaux étaient pleins de tous les portraits de mademoiselle Lenglen. Il pauvre bébert, devenu père, si je suis relégué au fait divers. Ah, Suzanne, Suzanne, y'en a que pour toi. Ah, Suzanne, Suzanne, partout l'on te voit. Dans tous les journaux qu'on tire, y'a ta photo, y'a ton bandeau, tes dents et ton sourire. Ah, Suzanne, Suzanne, quelle obsession. Ce n'est plus de l'amour, c'est de la passion. Ton coup de raquette fait pas mes lèvres froid. Ah, Suzanne, Suzanne, y'en a que pour toi. Ah, Suzanne, Suzanne, y'en a que pour toi. Ah, Suzanne, Suzanne, partout l'on te voit. Dans tous les journaux qu'on tire, y'a ta photo, y'a ton bandeau, tes dents et ton sourire. Ah, Suzanne, Suzanne.
là quelle obsession. Pas ni plus, l'amour c'est de la passion. Et ton coup de raquette fait pas mêler, roi. Ah, Suzanne, y en a pour toi.
Ah, Suzanne, par Saint Granier, un célèbre fantaisiste des années folles, qui était également auteur. Et là, on lui doit d'avoir signé les paroles de cette chanson avec Albert Wilmette, qui était un auteur formidable de l'époque, qui a fait un nombre de couplets pour le musical, pour les opérettes, absolument incroyable. Et on va reparler de lui un peu plus tard au cours de cette émission. Pour moi, c'est tout à fait typique de l'esprit très spirituel qu'on pouvait avoir dans les spectacles à l'époque, où on s'emparait de l'actualité pour la brocarder gentiment, ou, enfin plus ou moins gentiment d'ailleurs, mais là, c'était sympathique, là.
Mais vraiment de l'actualité, puisqu'il dit « Suzanne, tu fais pâmer les rois ». Or, en 1926, elle dispute le match du siècle à Cannes et de nombreuses têtes couronnées viennent assister à ce match de tennis. Et il parle de son bandeau, il parle de son sourire et il parle vraiment du fait qu'elle devient iconique, Suzanne Lenglen ou Lenglen. Elle est prise en photo parce qu'elle a une allure, elle a ce bandeau coloré dans les cheveux, elle a une robe blanche avec une jupe plissée qui arrive au-dessus du genou, donc une silhouette vraiment qu'elle va reproduire à chaque fois et que l'on doit au couturier Jean Patou qui crée pour elle ce qu'on appelle aujourd'hui le sportswear, qui à l'époque étaient des tenues de sport et que les gens vont vouloir porter dans leur quotidien. On n'a plus besoin d'être sportif pour s'habiller sportswear. Et ça, on le doit à Suzanne Lenglen et Jean Patou.
Ça nous amène quand même à l'évolution de la mode, parce que là, on peut dire qu'il y a quand même des couturiers très importants qui ont eu une influence et un rôle déterminant sur l'évolution de la mode féminine durant toute cette décennie. J'aimerais, Norman, que vous nous aiguilliez un petit peu sur ce terrain de la mode que vous avez exploré.
Il sera impossible de les citer toutes et tous, mais la grande libération de cette mode, elle arrive juste avant la Première Guerre mondiale avec la libération du corps des femmes, du corset. Et ça, on le doit ça à Madeleine Vionnet et Paul Poiret. Et donc, évidemment, débarrassé de ce corset qui faisait une silhouette, une taille de guêpe, qui offrait une poitrine plutôt opulente, signe de maternité, mais qui engonçait totalement le corps des femmes, eh bien, la femme des années folles va avoir un corps totalement opposé. On va avoir une silhouette tout à fait longiligne, sans forme, androgyne. Est-ce un homme? Est-ce une femme? Chantent les chansonniers également à l'époque. Et cette silhouette longiligne, elle permettra aux couturiers de créer des habits, des robes pour permettre aux femmes de bouger aisément et de ne pas changer d'attitude en fonction de la robe qu'elles portent. Ça, c'est quelque chose que revendique Chanel, Gabrielle Chanel, qui est évidemment l'une des couturières stars, phares de cette époque. Et Chanel, ce qu'elle va faire, entre autres choses, c'est qu'elle va aller utiliser le vestiaire masculin pour habiller les femmes. On est vraiment dans les années folles, dans une époque où les genres masculins et féminins se brouillent énormément. On aura certainement à en reparler. Et donc Chanel, eh ben, elle va voir que dans l'armoire de son compagnon, il y a des tissus, il y a des coupes, il y a des modèles qui sont beaucoup moins fragiles que ce qu'on attribue ordinairement aux femmes. Et donc elle va s'en emparer pour avoir des vêtements que les femmes vont pouvoir froisser, dans lesquels elles vont pouvoir bouger, elles vont pouvoir faire du sport, elles vont pouvoir monter en voiture, elles vont pouvoir travailler, elles vont pouvoir danser, sans être contrainte par un vêtement. Et elle va aller plus loin encore, Chanel, en 1926, avec ce qui va être totalement iconique et ce qui va faire scandale, qui est la petite robe noire, qui est vraiment juste une robe tubulaire, extrêmement simple, mais qui est noire. Et ça va être un scandale terrible à l'époque, puisque on est 8 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, et le noir est la couleur du deuil. Chanel en fait une couleur de mode.
Oui, parce qu'en plus, le nombre de veuves de guerre à l'époque était considérable.
On porte le deuil à l'époque.
Oui, parce qu'il ne faut pas l'oublier, ça non plus. Hein. C'est que ce qu'on décrit de cette effervescence, ça, c'était une partie du pays, c'était notamment à Paris et dans certains quartiers, mais il y avait également tout le reste du pays qui se couvrait de monuments aux morts.
Bien sûr, mais l'un n'empêche pas forcément l'autre. En fait, cette effervescence est une réaction à ça. La question des années folles, c'est comment est-ce qu'on fait pour survivre à la catastrophe? Et la réponse qu'apportent les années folles, c'est en se libérant, en oubliant tout ça, en dansant, en chantant, en inventant une nouvelle silhouette, une nouvelle féminité. C'est quelque chose qui force un peu cet oubli, c'est une forme de déni, mais l'un ne va pas sans l'autre. S'il n'y avait pas eu cette Première Guerre mondiale et toutes les conséquences qui ne s'arrêtent pas à l'armistice, évidemment, comme vous venez de le rappeler, il n'y aurait pas ces années folles.
Oui, une sorte de contrebalancement.
Exactement.
Alors, vous avez parlé de la mode, on va parler des coiffures qui font partie de la mode aussi. Et c'est bien sûr la mode des cheveux courts, de la coiffure à la garçonne et qui a également suscité une chanson restée fameuse. Elle s'était fait couper les cheveux, créée en 1924 par Dréan, mais qui a été reprise par la suite et notamment en 1957 par Andrex.
France Musique, Tour de chant, Martin Penet.
L'autre jour, ma femme me dit, vois-tu mon chéri, j'ai fait pour te plaire quelque chose de bien gentil. J'ai fait ce que font toutes les femmes en ce moment pour être tout à fait dans le mouvement. Elle enleva gentiment son chapeau et stupéfait, je m'aperçus tout aussitôt. Elle s'était fait couper les cheveux comme une petite fille gentille. Elle s'était fait couper les cheveux en se disant ça m'ira beaucoup mieux, car les femmes tout comme les messieurs, parce que c'est la mode, commande, elles se font toutes couper les cheveux. Furieux de ce pas, je vais trouver ma belle-maman, une dame qui se promène entre 16 et 40 ans. Ma belle-mère, en me voyant, me dit de l'air doux, regardez ce que j'ai fait pour vous. Elle enleva gentiment son chapeau et stupéfait, je m'aperçus tout aussitôt. Elle s'était fait couper les cheveux comme une petite fille gentille. Elle s'était fait couper les cheveux en se disant ça m'ira beaucoup mieux, car les femmes tout comme les messieurs, parce que c'est la mode, commande, elles se font toutes couper les cheveux. Je cours chez ma maîtresse et je la trouve dans son bain en train d'essayer un amour de galurin. Pour juger du chic que lui donnait ce chapeau, en costume d'Ève, elle sort de l'eau. Elle avait bien un chapeau, c'est curieux, mais stupéfait, je m'aperçus en baissant les yeux. Femmes tout comme les messieurs, parce que c'est la mode, commande, elles se font toutes couper les cheveux.
Vous avez cité la garçonne. Est-ce que c'est Antoine qui a créé la coupe? Est-ce que Coco Chanel a une responsabilité? Ou est-ce que c'est Victor Marguerite qui est le premier dans son roman?
Rien de tout ça.
Rien de tout ça.
Il y a un secret militaire. À la base de ça.
Oui.
Quand l'Amérique est rentrée en guerre en 1917 et que les premières infirmières américaines sont arrivées sur le front, elles sont arrivées bien sûr avec leur opulente chevelure et ces femmes ont attrapé des poux.
Oui.
Et on n'arrivait pas à les débarrasser des poux, donc on a coupé tous les cheveux à ces Américaines qu'on a renvoyées en Amérique. En Amérique, il y avait une nouvelle invention qui avait été faite par M. Nestlé. Et c'était la nouvelle permanente frisure.
Oui.
Alors, on a fait des frisures à ces femmes et on a renvoyé toutes les Américaines les cheveux coupés avec ces permanentes. Et quand les infirmières françaises ont vu qu'on avait coupé les cheveux pratiques à cause des poux, ça a fait tic. Et Chanel a découvert ça. Elle est allée voir Antoine, puisqu'ils étaient très complices et amis. Et elle a été une des premières et elle a dit à Antoine, tu vas me couper les cheveux mais parce que moi je veux en faire une mode. Là, il y a eu la première révolution, mais c'était une chose affolante. Chanel faisait couper les cheveux à toutes ses copines autour d'elle, mais ça s'arrêtait là. Une femme de bon ton, reçue dans le monde, n'aurait jamais osé couper les cheveux. Et vous pouvez dire que la bataille a été de 1917 en 1920. En 1920, la mode est venue qu'on a commencé à couper les cheveux devant et en gardant le chignon derrière. Alors Antoine a commencé à couper tous les cheveux aux femmes en faisant du Nestlé devant. Mmh. Et le scandale du livre de La Garçonne a permis à Chanel d'en faire une autorité, c'est-à-dire de couper les jupes au genou, et Antoine alors de cisailler le chignon qui est resté derrière, et La Garçonne était née. Et Antoine a créé la coiffure qu'il a baptisée à la chinoise, mais c'était en réalité la coiffure à la Jeanne d'Arc. Mmh. Parce qu'Antoine était toujours inopiné mentalement et moralement par cette fameuse coiffure de Jeanne d'Arc, qui était la première femme qui avait coupé ses cheveux avec autant de lune. Et il a fait la révolution sur Joséphine Baker, bien sûr, en la rasant, en la gominant et en lui faisant les accroche-cœurs.
C'était Alexandre, le célèbre coiffeur Alexandre de Paris, qui évoquait son prédécesseur non moins illustre, Antoine, qui, au cours des années folles, a vraiment popularisé cette coiffure à la garçonne auprès de tout un tas de célébrités et de personnes plus anonymes. La chanson qu'on avait entendue précédemment, Elle s'était fait couper les cheveux, datait de 1924. Et l'année suivante, c'est Miss Tinguette, la grande Miss Tinguette, la vedette du musical, qui s'empare du sujet dans sa revue inaugurale du Moulin Rouge avec « Depuis que j'ai fait couper mes cheveux ». Et une autre chanson très amusante, sur la mode cette fois, « C'est chic, les longs pantalons », où elle évoque déjà les pattes d'éléphant. Vous imaginez,
incroyable, bien avant le disco.
Qu'on lance quelque chose de nouveau. Des gens disent aussitôt, ce n'est pas beau. Mais la majorité, hommes, femmes ou enfants, trouvera distant la mode des pattes d'éléphant. C'est chic, les longs pantalons qui vont le long des talons. Ça vous donne une silhouette admirable. À l'intérieur, messieurs, c'est confortable. Il y a de la place pour deux ou pour trois. Et l'on n'est pas à l'étroit. C'est une mode vraiment agréable. C'est chic, les longs pantalons. Les hommes qui ne veulent pas faire comme nous et disent que notre genre manque de goût. Nous ne leur prêterons pas nos pantalons un instant. Ils ne les rendraient pas car ils voudraient rester dedans. C'est chic, les longs pantalons qui vont le long des talons. Ça vous donne une silhouette admirable. À l'intérieur, messieurs, c'est confortable. Il y a de la place pour deux ou pour trois. Et l'on n'est pas à l'étroit. C'est une mode vraiment agréable. C'est chic, les longs pantalons.
Voilà la grande Miss Tinguette qui nous vante les pantalons. Alors, pantalons qu'elle pouvait porter sur scène autant qu'elle voulait, mais c'était un peu plus compliqué que ça dans la vie quotidienne.
Mais c'était tout à fait interdit pour les femmes de porter le pantalon depuis le code Napoléon. Il fallait demander une autorisation de travestissement en préfecture, et ce, jusqu'en 2013.
Non.
En 2013, j'espère que nos auditrices n'ont jamais été hors la loi.
Alors là... Je pense que cette disposition du code Napoléon était largement caduque avant qu'elle soit supprimée.
Absolument.
Ouais. À part Miss Tinguette, évidemment, l'autre figure des années folles au musical, c'est la jeune Joséphine Baker, qui avait fait ses débuts parisiens au Théâtre des Champs-Élysées dans la fameuse Revue Nègre, où elle était surtout danseuse, hein, il faut quand même le rappeler. Et c'est bien par la suite qu'elle a chanté, d'abord en anglais, puis plus tard encore en français. Et j'ai retrouvé une interview de Joséphine faite en 1953, où elle évoque justement son arrivée à Paris et ce qu'elle incarnait à l'époque et sa perception de la mode féminine et de l'image qu'elle a projetée sur les femmes à l'époque.
Madame Joséphine Baker, je voudrais que vous retrouviez pour nous quelques souvenirs de cette année 1925 qui a apporté au public parisien, au public du Théâtre des Champs-Élysées, une sorte de révélation et aussi une petite révolution dans bien des domaines, ne serait-ce que dans celui du costume, des hommes et des femmes, de la mode.
Oui, monsieur, c'est bien sûr. Quand je suis arrivée en France 1924, comme vous le savez, c'était la mode des femmes. Des femmes étaient très blanches, de peau jolie, et pâle, c'était, toutes les femmes étaient roses, roses pâles avec le poudre de riz tout à fait blanche pour se rendre encore plus blanche que c'était la peau naturelle. Les longs chevelures assez fortes avec la taille de guêpe. Et moi, je suis arrivée en diable, disons-nous, et j'ai fait avec la coupe des cheveux la garçonne, que c'est de nouveau à la mode aujourd'hui, la peau bronzée, et les pauvres malheureuses femmes étaient obligées de rester au soleil pendant 3 ou 4 mois pour se faire tanner la peau, et souvent c'était malheureux parce que les médecins étaient obligés d'intervenir pour leur santé parce que ça les rendait malades ou brûlés ou les poumons malades, enfin beaucoup de choses qui n'étaient pas tout à fait bien pour eux au point de vue santé, mais tout de même elle voulait à toute force être bronzée. Alors, les maisons comme Antoine, le coiffeur, a inventé des crèmes pour bronzer la peau plus vite, paraît-il, et en même temps la taille de guêpe est devenue, il est resté taille de guêpe, mais les hanches aussi est devenue toute mince et allongée. Les spores ont commencé à développer les femmes pour que ça soit, qu'ils soient musclé et enfin en tout et pour tout est changé.
Aujourd'hui, voyez-vous, c'est la mode nouvelle. Toutes les demoiselles sont dans le mouvement. Elles ont leur petite voiture et sortent seules. Elles font tout ce qu'elles veulent, sans crainte des parents. Après soi-disant critiquer, ce sont des garçons manqués. Elles ne font rien comme leur maman, elles le font tout comme leur papa. Ça peut vous paraître étonnant, mais c'est le siècle qui veut ça. Elles ont un grand fume-cigarette, elles ont même un rasoir Gillette. Paraît qu'elles se rasent avec ça, dans le cou et sous les bras. Elles font le matin en se levant la gymnastique en pyjama. Elles ne font rien comme leur maman, elles le font tout comme leur papa. Jadis, afin de passer le temps, les demoiselles faisaient de la dentelle ou jouaient du piano. Mais aujourd'hui, les jeunes filles sont plus pratiques. On fait de musique, elles jouent du phono. Et le soir à la maison, au lieu de prendre des infusions, elles ne font rien comme leur maman, elles le font tout comme leur papa. Au dancing, elles s'en vont gaiement et prennent des whisky en soda. Comme leur père qui d'humeur joyeuse donne de l'argent aux entraîneuses, elles aussi, toutes les fois qu'elles ont dansé le tango ou le boston, aux danseurs de l'établissement, elles glissent 100 francs en douce comme ça. Elles ne font rien comme leur maman, elles le font tout comme leur papa. Ce sont toutes des féministes enragées. Elles sont très cotées dans les réunions. Pour les voir à la tribune quand elles réclament le vote des femmes, l'émancipation. Elles disent même l'air dédaigneux, le mariage, oh, c'est vieux jeu. Rien comme leur maman, elles le font tout comme leur papa. Mais un jour, un jeune homme charmant leur dit des mots d'amour tout bas. Alors adieu tous les principes de la jeune fille qui s'émancipe. Elle se marie et si plus tard vous les retrouvez par hasard, elles ont un poupon dans leur bras. Et voyez-vous ça, c'est charmant. Elles ne font plus comme leur papa, elles font tout comme leur maman.
C'était Georges L. en 1930, dans une chanson écrite par Jean Berthet et Géo Cogé, qui font donc une sorte de bilan sur l'émancipation féminine durant les années folles. Musique de Vincent Scotto, on reconnaît assez bien son style d'ailleurs. Et Norman Barogeli, cette chanson est étonnante parce que vraiment, elle aborde des sujets, notamment dans le dernier couplet, sur le féminisme, le vote des femmes, enfin, c'est très précurseur, oui, là.
Effectivement, très précurseur, avec toujours cette fin... moralisatrice, cette fin conventionnelle, patriarcale, qui est absolument terrifiante. Il faut se souvenir quand même qu'à l'époque, la grande peur, c'était que la France se dénatalise.
Bah, je veux dire qu'il y avait déjà eu d'énormes pertes dues à la guerre.
Donc... Absolument. Plus cette émancipation féminine qui font que les femmes veulent leur indépendance, veulent travailler, veulent faire des études et par conséquent se détournent de l'idée de fonder un foyer, d'avoir systématiquement des enfants, beaucoup d'enfants. Ce sont des choses qui sont remises en cause réellement, le contrôle des naissances, etc. On en parle beaucoup. Donc il y a une énorme peur de la société par rapport à ces enfants. Donc cette chanson, effectivement, elle incarne à la fois, elle décrit de façon un petit peu joyeuse au début ses avancées, ses progrès, cette émancipation, mais à la fin, elle exprime toutes ses peurs. Elle a au moins le mérite de citer le mot émancipation, du reste, c'est quand même assez peu courant dans une chanson, et le vote des femmes.
Et le mot féminisme aussi.
Et le mot féminisme, tout à fait. Et le vote des femmes, qui est un combat commencé de longue date, qui a obtenu certains succès dans les pays autour de nous, chez nos voisines européennes, nord-européennes. Le droit de vote est plutôt en bonne voie d'être accepté. En revanche, en France, pas du tout. En 1919, la Chambre des députés se prononce en faveur des droits civiques pour les femmes, mais à l'époque comme aujourd'hui, une loi doit faire de la navette parlementaire. Elle mettra 3 ans pour arriver au Sénat, en novembre 1922, et là, ce sera un non catégorique. Et il faudra attendre 1944 pour qu'un décret autorise les femmes à voter et à se présenter à une élection.
Et là, c'est dû entre autres à leur rôle pendant la Résistance.
Également, absolument.
Donc comme quoi, les événements historiques font avancer les causes parfois de façon imprévisible, ou en tout cas inattendue.
Et comme quoi, il faut vraiment se battre quand on est une femme.
C'est donc tout à fait passionnant de replonger dans cette époque foisonnante et pleine d'imprévus, pleine de nouveautés. On a entendu beaucoup d'hommes chanter là dans la première partie de cette émission. Je sais que ça vous chagrine un petit peu. Néanmoins, ce que j'expliquais, c'est que les auteurs de chansons, les interprètes de chansons sur le sujet, en tout cas qui parlent de l'émancipation féminine, il ne s'agit que d'hommes à l'époque, donc il fallait bien en passer par là. Même si d'ailleurs, on a souvent, comme vous le disiez, des couplets un peu moralisateurs dans la chute des chansons. Donc là, maintenant, on va entendre surtout des femmes et... Ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de cette série d'émissions, parce que j'ai envie d'aborder donc la question de savoir comment la chanson prend en charge cette nouvelle féminité, un aspect subversif interprété par des femmes, et on se rend compte que c'est quand même bizarrement dans des couplets d'opérettes qu'on va avoir ça d'abord, et on le doit à des auteurs formidables comme Albert Wilmette. Alors il faut quand même dire un mot du renouveau de l'opérette après la Grande Guerre. Donc le coup d'envoi est donné en novembre 1918 avec la création de Fifi, signée donc Albert Wilmette et Henri Christinet pour la musique, qui tiendra l'affiche durant 3 ans consécutifs au Bouffe Parisien. Donc ça, c'est vraiment un record absolu. Et puis alors, les mêmes auteurs vont faire ensuite en 1921 l'opérette Dédé avec Maurice Chevalier, qui elle tiendra encore l'affiche durant 1 an et demi. Et puis pendant ce temps-là, eh bien, il y a un autre compositeur qui fait parler de lui, c'est un certain Maurice Yvain qui par la suite fera énormément d'opérettes avec de très grands succès. Elles ont vraiment marqué les mémoires, mais avant cela il avait fait des chansons avec Albert Wilmette notamment, et Jacques Charles pour la fameuse Miss Tinguette que nous avons entendue. Donc c'est lui qui a fait la musique de Mon Homme, de J'en ai marre, de La Java, de En douce, mais il n'avait pas encore fait d'opérette. Et il démarre triomphalement dans l'opérette en 1922 avec Ta bouche. Et en voici un des airs principaux, plein de légèreté et aussi, donc, je disais, d'un petit côté subversif. Non, non, jamais les hommes.
France Musique, Tour de chant, Martin Penet.
Pour tout ce que nous faisons, pauvres femmes, on nous blâme, sans jamais chercher au fond de notre âme ce que nous pensons. Dès qu'on prend un riche amant, on s'exclame, c'est infâme, c'est infâme, sans songer que c'est seulement pour notre âme, notre âme bleuement. La femme par nature est une créature qui n'a que de très bons sentiments, mais sa bonté même, sa faiblesse extrême, l'expose à de mauvais jugements. Non, non, jamais les hommes ne sauront ce que nous sommes, nous mentons.
Gustave Quinson, le directeur du Palais Royal, me fit venir chez lui un jour à Saint-Cloud et me dit, vous êtes bien l'auteur de ces succès, Maurice Étain.
Yvain ?
Non, non, Maurice Étain. Je tentais de lui épeler mon nom, mais peine perdue, pendant plus de 6 mois, pour lui, je fus Étain.
Oh, c'est drôle. Ah.
Alors, Étain, me dit-il, avez-vous déjà écrit de l'opérette ? Je lui répondis que non, que je débutais. Eh bien, vous en allez écrire pour moi. Vous allez écrire pour moi avec Mirande et Villemette. Vous ferez une bonne équipe. Tenez, je vous signe un contrat pour 3 opérettes. Au revoir, mon cher Étain. Ah, je n'étais pas Étain, mais abasourdi.
Mais y a de quoi ?
Et quand, avec le recul des années, je pense au grand directeur que fut Quinson, à son amour du théâtre, je souhaite à tous mes jeunes confrères de trouver sur leur route un pareil enchanteur, si la race n'en est pas disparue, qui d'un trait de plume leur puisse donner un théâtre, une distribution unique, des conseils précieux, enfin tous les atouts en somme. Je me mis au travail d'arrache-pied. Villemette, qui était venu me retrouver au Treillas, arriva juste pour me mettre des compresses glacées sur le front et autour des poignets.
Et pourquoi donc ?
Mais je frisais la congestion, tout simplement. Il faut vous dire qu'en 8 jours, j'avais composé la partition de Ta bouche.
Ah ben, en effet.
Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas oublier.
Et c'était donc la voix de Maurice Yvain, interviewé en 1943, figurez-vous, dans une série d'émissions pour la radiodiffusion nationale qui s'appelait Leur Début. Et donc, c'est absolument incroyable, avoir composé cette opérette en une semaine. Et elle s'est jouée 1 an.
Oui, et il y a une reprise en 43 à Mogador, d'ailleurs, 43-44.
Donc voilà, et ce que je trouve intéressant, moi, c'est donc ce thème de la femme libre qui se développe de plus en plus dans les opérettes modernes de cette époque. Donc finalement, la femme présentée dans ses œuvres n'est plus la femme soumise qu'on avait dans les chansons réalistes, par exemple.
Oui, il y a un rapport en tout cas à la chose amoureuse qui est tout à fait divergente par rapport à la chanson réaliste où on a souvent, pardonnez-moi de caricaturer, on y reviendra lors de la 3e émission, mais on a souvent l'image de cette femme qui est battue comme plâtre par son amant, par l'amour, par les sentiments, et qui sont toujours à sens unique, et elle mène une vie absolument désastreuse, enfin, c'est absolument terrible ce qui lui arrive à la pauvre. Alors que là, on a plutôt une vie amoureuse que l'on assume et dont on assume toutes les inconséquences. On assume son insoumission au mari, aux amants, au père. On a des chanteuses qui sont très, très expressives. Qui disent « je ». Et ça, tout à fait. Ça, c'est vraiment important de le souligner. C'est vraiment une nouvelle façon d'être au monde et de le chanter.
Et en 1923, donc l'année suivante, après Ta bouche, eh bien c'est Sacha Guitry qui s'y met avec une opérette remarquable, L'amour masqué, musique d'André Messager cette fois. Alors lui, c'était un vieux routier, on peut dire, hein, il était plutôt à la fin de sa carrière, mais il avait fait des choses absolument merveilleuses depuis le 19e siècle. Et sa musique est toujours aussi formidable en 1923. Et c'est lui donc qui compose toute la partition de L'amour masqué, dans laquelle se trouvent ces couplets absolument charmants, chantés par Yvonne Printemps, J'ai 2 amants.
J'ai 2 amants, c'est beaucoup mieux, car je fais croire à chacun d'eux que l'autre est le monsieur sérieux. Exactement par moi, et je fais croire à chacun d'eux que l'autre m'a donné le double chaque fois. Et ma foi, ils me croient tous les deux. Je ne sais pas comment nous sommes, mais mon Dieu, que c'est bête un homme. Que c'est bête un homme. Alors, à vous penser, 2. Un seul amant, c'est ennuyeux, c'est monotone et soupçonneux, tandis que 2, c'est vraiment mieux. Mon Dieu, sur la tête.
Il y avait une autre vedette très importante de l'opérette qu'on ne va pas diffuser, mais je crois que c'est important de la citer, c'est Edmé Favart, qui a notamment créé le rôle de Ciboulette de Reynaldo Hahn la même année, en 1923. Et puis il y en a d'autres, comme Davia, qui a une très belle carrière d'opérette durant toutes les années folles. On pourrait également citer Jacqueline Francel, à qui on doit par exemple un rôle important dans l'opérette Flossie. Là, on est plutôt à la fin de la décennie. Et à présent, je voudrais, parmi les compositeurs, aborder le cas de Georges Van Paris. Alors lui, c'est le plus jeune de la bande, qui signe une de ses premières opérettes en 1927 avec La Petite Dame du Train Bleu, sous-titré « Quand il y en a pour deux », qui, elle, a été créée à l'Eldorado. Alors, l'Eldorado, c'était plutôt un café-concert à l'origine, qui après a évolué vers précisément un théâtre de revue, d'opérette. Et donc, en octobre 1927, il donne « La Petite Dame du Trableux ». Ça n'a pas été un triomphe, car ça a tenu 2 mois l'affiche, mais ça contient des airs amusants et très dans l'air du temps. Et donc, parmi ces airs, il y en a un créé par Marie Dubas, dont ça a été un moment important quand même dans sa carrière, puisqu'elle a fait pas mal d'opérettes avant d'aborder le tour de chant, et ça, on y reviendra dans une prochaine émission. Et donc, elle n'a pas enregistré l'air que nous allons entendre, c'est la jeune Lucienne Boyer qui s'en est chargée, et ça s'appelle « On trompe son mari », tout un programme.
Et la pauvre femme du monde, nous ignorons ce qui nous attend, l'histoire en misère est féconde lorsque nous prenons un amant. Si l'on savait les conjonctures où l'on se trouve quelquefois, avant de tenter l'aventure, on y regarderait à deux fois. On trompe son mari pour faire comme tout le monde, et souvent l'on tombe de mal en pis. Quand on prend un amant pour suivre la mode, c'est bien incommode et très gênant. Mieux vaudrait, c'est certain, faire de la tapisserie, dire des inepties sur son prochain. Mais une femme à Paris ne peut pas rester sage. C'est pour être à la page qu'on trompe son mari. Vertu, vertu, un sage antique disait jadis, tu n'es qu'un mot, mais dépourvu de sens pratique, ce faux sage n'était qu'un son. Si quelque jour la bagatelle vous tente, mesdames, croyez-moi, le jeu n'en vaut pas la chandelle, c'est du pur boniment. On trompe son mari pour faire comme tout le monde, et souvent l'on tombe de mal en pis. Quand on prend un amant pour suivre la mode, c'est bien incommode et très gênant. Mieux vaudrait, c'est certain, faire la tapisserie, dire des inepties sur son prochain. Mais une femme à Paris ne peut pas rester sage. C'est pour être à la page pour mon mari.
Thank you.
Donc ce judicieux conseil très années folles était donc donné par Lucienne Boyer, qui a enregistré cet air créé par Marie Dubas en 1927 sur la scène de l'Eldorado dans l'opérette La Petite Dame du Train Bleu, composée par le jeune Georges Van Paris et Philippe Parès. Et dans le même esprit, on pourrait citer une autre opérette de la même année, Katie Boxer, rien que le titre déjà. Donc c'est donné au théâtre de la Potinière en juin 27, et donc l'héroïne, c'est une jeune américaine délurée à qui le sport a donné de l'aisance et de l'autorité, qui arrive à Paris. Alors là, après, il se passe plein de choses. C'est un peu ça l'esprit des années folles, ces femmes émancipées, oui, qui font du sport, qui trompent leur mari, qui...
Et qui sont des garçons, comme le chante Gabaroche dans cette opérette Katie Boxer en 1927. Alors qui sont des garçons, ça résume de façon un petit peu fermé quand même. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point toutes ces femmes des années folles, pour assumer cette nouvelle identité, cette nouvelle féminité, vont chercher chez les hommes, soit dans leur vestiaire, soit dans leur coupe de cheveux, ce qui fait la puissance et ce qui fait la force. La force est détenue par les hommes, donc les femmes vont aller chercher chez les hommes cette force avec leurs attributs.
Eh bien, toutes ces femmes des années folles et ces chanteuses, nous les retrouverons la semaine prochaine, Normane Barojeli, dans le second volet de cette série qui sera davantage consacrée à la scène, c'est-à-dire aux musicals et aux cabarets. Et là, il y a beaucoup, beaucoup de figures à évoquer des chanteuses. Là, on n'entendra pratiquement que des chanteuses, c'est promis. Et je rappelle que vous avez publié aux éditions EPA un beau livre intitulé « Femmes des années folles ». Tout récemment, un triple CD sorti chez Frémo et Associés avec le même titre et un spectacle itinérant. Donc c'est vraiment un sujet qui vous habite, on peut le dire.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Martin.
Merci, Norman. Tour de chant, une émission de Martin Penet, avec le concours de Jeanne Lerche à la préparation, Éric Boisset à la prise de son et Noé Mignard à la réalisation. Merci à David Sylvestre pour ses trésors discographiques et aux documentalistes de l'INA pour leurs précieuses archives.
France Musique.